On prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef de Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On commence avec une nouvelle tirée de Franco-Presse. La majorité des enfants francophones vont dans des garderies en anglais.
C'est selon une compilation de Statistique Canada. Il y aurait 54 % des enfants qui sont admissibles à l'instruction en français à l'extérieur du Québec qui vont finalement dans des garderies de langue anglaise. Donc, plus que la moitié. Il y aurait seulement 35 % des enfants admissibles qui vont dans des services de garde en français. Le reste vont dans des ce qu'on connaît comme être des services bilingues. Il y a des différences selon les régions, évidemment. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, le pourcentage est beaucoup plus élevé et fait un peu monter la moyenne nationale. Je crois que dans leur cas, c'est pas loin du 90 %. Il y a plusieurs choses qui influencent ces données-là. Premièrement, il y a le milieu familial. Si les deux parents parle français, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'ils envoient leur enfant à la garderie francophone. S'il y en a un, c'est un petit peu moins, de chance. Et oui, si les deux parlent anglais, c'est beaucoup plus rare, évidemment. Par contre, il y a parfois les parents n'ont pas le choix. La garderie francophone peut être justement trop loin pour les besoins pour que ce soit pratique d'envoyer leur enfant à la garderie en français. Donc, on choisit la garderie plus proche qui est en anglais. On dit dans les données qu'on a remarqué une augmentation importante du nombre de travailleurs francophones dans les garderies, mais ça ne s'est pas nécessairement transformé en places supplémentaires en français. Ça peut être dû au financement qui ne vient pas ou à la volonté même des garderies de créer des places en français. Pourtant, on le sait, la garderie, c'est le point de départ de l'éducation. Hein? 93 % des enfants qui vont à la garderie en français continuent leur école primaire en français. Pour ceux qui vont à la garderie en anglais, c'est seulement 30 % qui continuent leur éducation primaire en français. Donc, pour les communautés francophones hors Québec, c'est un enjeu important. C'est la base de ce qu'on appelle le continuum de l'éducation en français.
Dans la voie acadienne, maintenant, un député francophone de l'Île-du-Prince-Édouard au centre d'une tourmente déontologique.
Oui, je parle d'une situation qui secoue un peu la communauté francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. Ça concerne le député francophone Gilles Arsenault, qui était jusqu'à tout récemment ministre des Affaires acadiennes et francophones, entre autres. Là, il y avait plusieurs postes de ministre, mais pour la communauté francophone, c'était le point important. Il a été expulsé du caucus du Parti conservateur par le premier ministre. Ça a pris quelques jours avant que les médias aient les détails de ce qui se passait. Finalement, ce qu'ils ont pu apprendre, c'est que le député aurait commis plusieurs erreurs de jugement graves, selon le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rod Lens. Il aurait autorisé des modifications à un permis sans suivre les procédures habituelles lorsqu'il était ministre de l'Environnement. En gros, ça c'est en 2024 que c'est arrivé. Il aurait donné une autorisation et une modification de permis verbalement au lieu de suivre les processus écrits. De plus, l'entrepreneur qui faisait le travail, qui demandait la dérogation, aurait fait un don à un organisme sans but lucratif duquel M. Arsenault est très proche. Sur Facebook, le député s'est défendu. Il dit qu'il respecte et comprend la décision du premier ministre, mais il défend s'être mis en conflit d'intérêts. Pour lui, la modification du permis et le don étaient deux choses complètement séparées. Par contre, ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que de son côté, la compagnie qui a fait le don et qui demandait la dérogation, pour elle, les deux étaient reliés. Ils ne voyaient pas les choses de la même façon. De plus, M. Arsenault, il était très proche de l'organisme choisi, comme je vous disais. Il y a un professeur de sciences politiques de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard qui dit qu'il est peu surpris que le premier ministre ait expulsé M. Arsenault du caucus, mais il se serait attendu à ce qu'il lui donne la chance de démissionner pour sauver un peu plus sa réputation. On va sûrement entendre parler parce que la Gendarmerie royale du Canada enquête sur les allégations.
Une histoire à suivre. Par ailleurs, l'Ontario français a un tournant face à son avenir. On en parle dans Le goût de vivre.
Oui, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est en mode de consultation depuis quelques semaines. Puis, Le goût de vivre nous en parle parce que l'Assemblée était à Penetanguishene, dans leur région, il y a quelques jours pour son deuxième arrêt dans cette tournée de consultation-là. Le processus a commencé en réalité l'année dernière. L'Assemblée a publié un livre vert vers référence aux couleurs du drapeau franco-ontarien, où on fait plusieurs constats. Bon, on rappelle que l'Ontario compte 652 000 francophones, ce qui représente 4,6 % de la population, mais c'est un point de pourcentage de moins qu'en 1991, même si le nombre total de francophones a augmenté. Ce qu'on veut donc avec ces consultations-là, c'est réfléchir à l'avenir de la francophonie. Un des points principaux que veut aborder l'Assemblée lors des consultations, c'est l'intégration des immigrants. On veut, pour revenir à un poids démographique autour de 6 % comme le demande aussi la loi sur les langues officielles, il faut incorporer ces immigrants-là. On vise aussi à cultiver le sentiment d'appartenance, les services en français, puis la structure et la coordination de la gouvernance en français. Il va y avoir un total de 25 consultations tout au long de l'année de ce genre-là. Ça va permettre de produire un rapport qui va mener aux États généraux de l'Ontario français en 2029.
Le français est-il comme une langue étrangère dans les librairies vancouveroises? Telle est la question que pose la source.
Exactement. En fait, le constat est assez simple. Il n'y en a plus de librairie uniquement francophone à Vancouver. C'est un phénomène que l'éditeur des éditions du Pacific West, les éditions du Pacifique Nord-Ouest, Louis Anquetil, suis prêt. Avec le prix des loyers et le fait que les francophones sont pas mal dispersés dans la ville de Vancouver, il comprend bien que c'est difficile et même impossible de tenir une boutique de livres avec un pignon sur rue ouverte. Mais il voit que l'intérêt pour la lecture en français, elle, n'a pas diminué. Il a même vu un certain regain depuis la pandémie. Pour lui, c'est pas nécessairement l'absence d'endroit pour acheter des livres qui pose un problème. C'est plutôt l'absence d'un lieu pour se rassembler, discuter et vivre sa culture. C'est pour ça que les salons du livre ou des festivals en lien avec l'écriture et la lecture ont un rôle essentiel à jouer pour offrir ces espaces-là. Il y a quand même un peu de livres en français dans les librairies anglophones de Vancouver, là, mais c'est pas une grande offre. La seule exception aussi en Colombie-Britannique, c'est dans la ville de Victoria, où il y a la librairie Côte-Ouest qui est encore ouverte. C'est surtout apparemment grâce à une petite communauté de lecteurs qui est bien établie et très fidèle et très active. On réussit aussi à vendre des livres par la poste à d'autres communautés de la région.
Bon, au moins, on en trouve dans la capitale, mais il faudrait qu'il y en ait plus.
Oui.
Inuvik met fin à son programme d'immersion française au primaire pour terminer cette chronique.
Oui, le Kinon nous parle de ça. Inuvik, pour vous situer, là, c'est une petite municipalité d'environ 3000 habitants qui est très au nord-ouest des territoires du nord-ouest. Là, c'est proche du Yukon, pas loin du fleuve Mackenzie, puis on est presque rendu dans la mer de Beaufort et l'océan Arctique. C'est très au nord. En citant des raisons de baisse d'effectifs puis de contraintes liées aux ressources et au financement fédéral, le conseil scolaire de la région a annoncé la fin du programme d'immersion à l'école élémentaire d'Inuvik. C'est le seul endroit dans la ville où on pouvait recevoir une éducation en français parce qu'il n'y a pas d'école uniquement francophone à Inuvik. On coupe pas tout. À partir de la rentrée de septembre, les élèves qui le veulent vont quand même pouvoir suivre environ 10 minutes de cours en français des cours de français et de sciences humaines en français. Les mathématiques, les sciences et les autres matières vont être enseignées en anglais. La Fédération franco-tainoise est très inquiète du changement. Elle affirme que c'est un recul important pour le français dans les territoires du Nord-Ouest. Elle rappelle aussi qu'on attend une croissance économique et démographique dans la région due aux annonces de financement du fédéral là, pour le Nord et la Défense. Donc, on comprend mal. Mais on dit plutôt que ce recul-là va empêcher d'attirer plus de francophones dans la ville. Du côté du ministère de l'Éducation du territoire, on ne peut pas vraiment s'en mêler. La décision revient au conseil scolaire, puis la Quilombe n'a pas réussi à obtenir de réponse ou d'entrevue avec le conseil, donc on n'a pas plus de détails.
Bon, alors, si vous en avez d'autres, plus de détails, vous nous les communiquerez.
Absolument, ça va me faire plaisir.
Merci, Julien.
Bonne journée.